نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Avant de parler des droits de l'enfant en islam, je commencerai par une petite introduction dont il y a quelques textes que je dois quand même répéter, des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu leur importance dans ce sujet et dans cette introduction. Le premier point, je vais aller un peu vite, c'est que l'éducation des enfants est une responsabilité qui est très très lourde. Ça, c'est un premier point dont il faut parler, il faut rappeler à chaque moment à chaque frère et à chaque sœur et à chacun de nous de se rappeler ce titre, que l'éducation des enfants est une lourde responsabilité. Si l'homme, pour réussir à éduquer un chat, il doit apprendre comment dresser ce chat. Alors pour éduquer un enfant qui est un être humain, c'est la chose la plus difficile. Et en lisant les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les textes du Coran al-Karim, il est clair que cette responsabilité est très très lourde, et notamment aujourd'hui. Vu les facteurs qu'il y a dans les sociétés d'aujourd'hui, les facteurs de destruction de cette éducation et de ces enfants, les médias, les écoles, etc., etc. Le hadith que tout le monde connaît, hadith de Ibn Omar, dont il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, kullukum ra, wa kullukum mas'oulun an ra'iyati, chacun de vous est responsable et chacun de vous sera interrogé yawm al-qiyamah. L'homme est responsable de sa maison et l'on sera interrogé yawm al-qiyamah par Allah subhanahu wa ta'ala. La femme est responsable, elle sera interrogée yawm al-qiyamah par Allah azza wa jal pour ses enfants, pour sa maison. Le terme utilisé dans l'islam, c'est le terme al-mas'ouliya, la responsabilité. Al-mas'ouliya, qui est une chose tout à fait différente du mot responsabilité en vérité. Le mot mas'ouliya vient du terme, du verbe sa'ala, interroger. C'est ce qu'on traduit par la responsabilité. C'est être interrogé. Même le mot, déjà, il te rappelle le jour dernier. Il te rappelle le fait que tu sois yawm al-qiyamah entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras interrogé pour ses enfants. Tu seras interrogé sur ses enfants, sur l'éducation de ses enfants. Wa kullukum mas'oul. Chacun sera interrogé. Mas'oulun an ra'iyatihi. Et Nabi alayhi salatu wa salam, dans un deuxième texte, il dit, inna Allah sa'ilun كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسال الرجل عن اهل بيته. الله سبحانه وتعالى interrogera chacun, chaque responsable يوم القيامه. Il l'interrogera qu'est-ce qu'il a fait de sa mission et de sa responsabilité. L'a-t-il accompli convenablement? A-t-il donné à chacun ses droits? Le père sera interrogé, la mère sera interrogée, le professeur sera interrogé, le mari sera interrogé, l'épouse sera interrogée, le chef d'État sera interrogé. Chaque personne qui a une responsabilité sera interrogée au jour du Qiyamah. Inna Allah sa'ilun kull ra'in 'amma sfar'ah, hafiza am dayya hatta yas'al ar-rajul 'an ahli baytihi. Ya Allah azza wa jall, comme précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses responsabilités, interrogera le chef de famille. L'interrogera sur sa responsabilité vis-à-vis de sa famille, de son épouse et de ses enfants, comme rapporte l'imam al-Nasa'i ibn Hibban. Le deuxième point dans cette introduction, c'est de rappeler aussi le rôle des parents. On a souvent des réponses de la part de beaucoup de parents qui essayent de se débarrasser de cette responsabilité et de jeter cette responsabilité ailleurs et de dire que c'est la société qui est responsable. C'est l'école qui est responsable. C'est la TV qui est responsable, mais pas nous. Nous ne sommes pas responsables. On a souvent entendu cette réponse. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met cette responsabilité en premier lieu sur les parents. C'est les parents qui sont les premiers responsables. Le texte cité par le frère Hicham, hadith de Abu Huraira, ma min mauloudin illa yuladu ala al-fitra. Ce sont les parents. Les parents qui le rendent chrétien, juif ou autre chose. Le premier lieu dans lequel est né, le premier lieu qui accueille l'enfant, les premières personnes qui accueillent l'enfant, ce sont les parents. Pendant des années, cet enfant reste avec les parents avant d'aller à l'école. Et ceci, c'est un autre problème pour les parents qui, déjà à l'âge de 3 ans, on les voit traîner dans les écoles avec leurs enfants, prendre leurs enfants à l'âge de 3 ans pour leur apprendre, leur enseigner quoi? Vous savez, vous connaissez la réponse. La vision de l'islam, la conception de l'islam, de l'éducation des enfants, n'a pas d'équivalent dans toutes les religions, aucune religion, aucun enseignement. L'islam n'a laissé rien au hasard entre parenthèses. Chaque chose est bien réglementée en islam, qui est un mode de vie qui gère toute la vie du musulman, dans ce monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, je citerai deux versets. Le premier dans lequel Allah dit « ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا » Il parle de l'enfant, de ce stade de l'enfance. Après avoir cité les étapes différentes de l'embryon avant la naissance, jusqu'à arriver à ce stade de l'enfance, Allah il dit « ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا » Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé. Et en parlant de cette enfance, Allah subhanahu wa ta'ala, pour déterminer, pour préciser l'étape de cette enfance, on parle de tifl, de l'enfance, à partir de la naissance jusqu'à la puberté. Ça c'est l'âge de l'enfance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nur, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et quand les enfants, bien sûr dans le contexte, Allah Azza wa Jal, dans ce contexte, il parle de certaines règles, d'un certain comportement que doit adopter l'enfant chez lui à la maison, avant de rentrer dans la chambre de ses parents, de ses frères et sœurs. Il y a des moments de la journée où il doit demander la permission avant de rentrer. Et ça, c'est une éducation qui est très très importante en islam, sur laquelle je reviendrai par après. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. Ça c'est la période de l'enfance, à partir de la naissance jusqu'à la puberté, comme le précise Al-Qur'an al-Karim. L'islam nous a donné toute une série de droits de l'enfant, pour ne pas les négliger. Certains sont connus, d'autres pas. Je citerai en premier lieu le point le plus important parmi les points les plus importants, parmi les droits de l'enfant, même avant sa naissance. C'est le droit de lui choisir ses parents. Le mari doit choisir la mère de cet enfant. Et l'épouse doit choisir le père de cet enfant. Et celui qui fait un mauvais choix, il aura fait un mauvais départ. إذا اختار الزوج أو إذا وقع اختيار الزوج على امرأة سيئة فقد أخطأ طريق تربية الأطفال وإذا اختارت المرأة رجلا غير صالح فقد أخطأت الطريق. Le mauvais départ engendre en général une mauvaise éducation. Le premier droit de cet enfant avant sa naissance, c'est de choisir sa mère et son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le texte rapporté par Ibn Majah al-Bayhaqi, le hadith al-sahih, « Takhayyaru linutafikum, fankihu al-akfa'a wa ankitu ilayhim. » Choisissez pour vos enfants, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la goutte de sperme. Il dit « Choisis pour ta goutte de sperme. » La personne convenable. À l'âge, au stade de la goutte de sperme, faut déjà choisir la maman, choisir la mère, choisir cette femme qui va éduquer cet enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un conseil qu'on rappelle chaque fois. Donc, on se marie pour une des quatre choses, la beauté, l'argent, la famille, la religion, la foi, l'iman. Fadfar bidati din taribat yadak. Choisis l'épouse qui a la foi, qui a la religion, qui a le comportement. Si tu ne suis pas la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu auras négligé le premier droit de cet enfant qui n'est pas encore né. Il dit à la femme et au tuteur de la femme, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si un qui a une foi, il a un comportement convenable, une foi convenable, eh bien, ne refusez pas cet homme. S'il vient demander la main de ta fille ou de ta sœur, ne le refuse pas. Sinon, il y aura un désordre total, général, répandu dans la société. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier droit. Si je rate ce train, je prendrai un train qui va dans le sens inverse. Je n'atteindrai jamais ma destination. Et ça, c'est un droit de l'enfant de lui choisir sa mère. Comme on rapporte de Omar ibn Khattab, quelqu'un qui vient dire à Omar ibn Khattab que mon fils ne m'obéit pas. Il lui dit que mon fils est aq. L'enfant qui est présent avec Omar ibn Khattab, il regarde à son père, il dit « Ya Amir al-Mu'min, ya Omar. » Mon père m'a désobéi avant que je sois désobéissant envers lui. Il m'a pas choisi la mère convenable. Il n'a pas enseigné le Coran. Il m'a pas donné un nom convenable. Et maintenant il demande que je sois obéissant envers lui. Déjà le premier pas est raté. La première étape est ratée. On choisit la fille du coin, dans un café, dans un train, on se marie, même pas on se marie au centre, on se marie même pas. On choisit une jeune fille n'importe où, après quatre ans. Copine, copain, on sort avec elle, après ces quatre années, on a un enfant dans le haram, dans l'illicite, et on dit, cet enfant, il ne veut pas obéir à ses parents. Mais de quels parents on parle? De quels parents? Si les frères, alhamdulillah, et les sœurs sont sur la voie de l'islam, il faut aussi voir des milliers, des centaines de milliers de nos frères et sœurs en Europe qui sont perdus. Des enfants dans le haram, dans l'adultère, la fornication, des filles qui fuient de la maison, des enfants perdus dans les maisons de correction. À cause de quoi? On se marie sans aucune loi de l'islam, aucun principe, aucune éducation. On prend n'importe quoi, on veut réussir l'éducation. Le deuxième droit de cet enfant, et sur ce premier point, je rappelle aux frères et sœurs, l'exemple donné par un grand savant qui est mort il y a plus de 8 siècles de ça, il dit que l'éducation, c'est comme l'éducateur, le père, la mère, le professeur, celui qui a cette charge d'éduquer, c'est comme l'agriculteur. Il doit choisir le terrain pour semer, pour mettre sa semence, il doit choisir un terrain qui est convenable. Ensuite, il doit
mettre les graines dans cette terre et doit essayer et les arroser au moment convenable, les surveiller et les débarrasser, éliminer les mauvaises herbes à fur et à mesure qu'elles grandissent. C'est l'image qu'il a donnée de l'éducation. C'est de choisir la femme convenable et l'homme convenable, l'éducation convenable. Essayer de débarrasser cet enfant du mauvais caractère, des mauvaises idées, etc. Le deuxième droit de cet enfant en islam, c'est de demander au moment des rapports. Et c'est une chose qui est négligée par beaucoup de musulmans, de demander à Allah Azza wa Jal de protéger cet enfant, le shaitan qui est l'ennemi public numéro un, comme on dit. C'est l'ennemi numéro un de l'humanité, de toute l'humanité, et qui a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala de prendre avec lui le maximum de personnes à Jahannam en enfer. Il a juré par la puissance d'Allah Azza wa Jal de prendre avec lui le maximum d'êtres humains en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce dua que le musulman doit dire au moment des rapports, le premier contact entre ces deux époux. أن يذكر الإنسان ربه وأن يسأل الله عز وجل أن يحفظ ذريته هذا من حقوق الطفل على والديه لا سيما على الأب أن يذكر الأب الله عز وجل عند الجماع عند معاشرته لزوجته أن يسأل الله أن يحفظ هذه الذرية يبقفت صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس rapporté par البخاري مسلم دي لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Beaucoup de musulmans au moment des rapports, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent une cassette, hein, de la musique. Aujourd'hui on dit que la musique repose l'âme, apaise les cœurs. C'est la nouvelle philosophie. Elle apaise les cœurs et dans la tranquillité de l'âme, etc. On met une cassette de musique la première nuit des noces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose à faire, c'est de faire deux rak'at avec ton épouse, de mettre ta main sur son front et lire le dua Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Et de commencer cette vie en tant que croyant musulman. Et avant les rapports, le père doit dire dua pour que Allah Azza wa Jal protège cet enfant dont on veut, maintenant dont on parle. Cet enfant, on parle de son éducation, comment réussir l'éducation, quels sont les droits de cet enfant. Eh bien, il est de son droit de dire ce dua au moment des rapports, avant les rapports, pour qu'il soit protégé par Allah Azza wa Jal contre Shaitan, contre la tentation, contre la mécréance suggérée par Shaitan, contre Shirk, inspirée par Shaitan, il sera protégé. C'est un droit de l'enfant. Au lieu de commencer par Sihr dans nos familles, de commencer par la musique, les chansons, beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes avec les parents. Tu dis, moi je veux commencer ma vie dans le halal, dans la voie de l'islam, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais mes beaux-parents me disent, ou bien mes parents, si tu ne mets pas de musique, s'il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de musique, il n'y a pas, etc., eh bien, on ne peut pas faire cette fête. Tu vas encourir la colère de tes parents. Comme on dit dans le dialecte marocain, hasrat harda. Tu seras quelqu'un de masrout alayk, mardouf alayk. Ils te mettent, ils te donnent cette image des juifs, mardoufin alayhim. Et le professeur me dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Tu ne dois jamais obéir à quelqu'un pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième droit de cet enfant, c'est un droit qui est très important pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Avant les rapports, il a un droit. Pendant la grossesse, il a des droits. Après, au moment de la naissance, il a des droits. Après la naissance, il a des droits. Au cinquième jour, il a des droits. Pendant son enfance, le long des années, il a des droits. jusqu'à la puberté, et on passe à un autre stade où il a encore des droits. Et on parle ici de l'enfance. L'islam a donné à la mère le droit de manger pendant la journée de Ramadan si elle a peur pour son enfant. De manger pendant la journée de Ramadan et de rompre le jeûne qui est un pilier de l'islam et qui est obligatoire. De rompre ce jeûne si elle a peur pour son enfant. Elle a peur de lui faire du mal. Elle a peur qu'elle soit affaiblie à cause du jeûne. L'islam lui donne l'autorisation de manger comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wada'a 'ala al-musafiri shatr as-salat. Allah Azza wa Jal a donné cette licence rukhsa aux voyageurs de ne prier que 2 rak'at au lieu de 4. Was-sawm 'ala al-musafir wal-murdi' wal-hubla. Quant au jeûne, la femme qui est enceinte peut manger pendant la journée de Ramadan si elle a peur pour son enfant. Le quatrième droit de l'enfant, c'est au moment de la naissance. La première chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Al-haqq al-awwal alladhi dhakart huwa qabla az-zawaj. Al-haqq al-thani qabla mu'asharat az-zawjati zawjatah bid-du'a. Al-haqq al-thalith lit-tifl athna al-haml, pendant la grossesse. Yahiqqu liz-zawja إذا خافت على ولدها أن تأكل في نهار رمضان حفاظا على ابنها. الحق الرابع وهو بعد الولادة. C'est le quatrième droit. Lequel? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد مولود لأحد الصحابة يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. À la naissance des enfants du Sahaba, on les amenait au prophète صلى الله عليه وسلم pour leur faire دعاء. كان يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم pour leur faire دعاء. بماذا يدعو لهم صلى الله عليه وسلم؟ يدعو لهم بالبركة كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة. Demandez à Allah عز وجل de leur donner la bénédiction, c'est-à-dire la baraka de les bénir. C'était le دعاء du prophète صلى الله عليه وسلم. Comme dit عائشة رضي الله عنها dans صحيح مسلم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. فيدعو لهم بالبركة. اللي يخفزه الدعاء بالبركة. اللهم بارك فيه. اللهم اجعله مباركا. etc. De lui demander, il n'y a pas de formule précise. Mais de faire دعاء et de demander à Allah عز وجل de prier Allah سبحانه وتعالى de bénir ton enfant. تدعو له بالبركة. C'est une des premières choses à faire pour cet enfant. C'est un droit de cet enfant. D'implorer Allah سبحانه وتعالى de le bénir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'oubliez pas, il dit dans le texte authentique, Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Il ne faut jamais sous-estimer, négliger le du'a. Ad-du'a, c'est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. La deuxième chose à faire dans ce même droit, qui est le quatrième, tahnikul mawloud. C'est un droit de l'enfant, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le même texte que je viens de citer, يدعو لهم بالبركة ويحنكهم. De prendre un morceau de date, de le mâcher et de prendre une petite partie, de la mettre sur le palais de l'enfant. التحنيك تأخذ تمرة تمضغها تأخذ منها شوية ذاك الحلاوة وتعملها في الفم ديال الطفل في الجهة العليا من فم الطفل. C'est un geste que faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est un droit de l'enfant. C'est un droit. Il fait partie des règles de l'éducation de l'enfant. Wa yaqul Abu Musa wulida li ghulam fa ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa sammahu Ibrahim. Abu Musa al-Ash'ari a eu un enfant. Il a apporté chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui lui donna le nom de Ibrahim alayhi salam. Wa hannakahu bi tamra. Il a pris une date. Il l'a mâché sallallahu alayhi wa sallam. Il en a pris un morceau et une petite partie, un petit morceau qu'il a mis sur le palais de cet enfant. وَدَعَى لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. Rapporté par le Bukhari muslim. Il a fait l'invocation de l'baraka comme dit Abu Musa al-Ash'ari. Anas, dans une autre histoire, il dit, j'ai pris mon petit frère chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec quelques dates. Le prophète s'est pris cet enfant et il me dit, est-ce que tu as une chose avec toi? Tu as quelque chose pour lui donner? Et Anas il dit, na'am kamrad, j'ai quelques dates avec moi. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم للبروفيسور صلى الله عليه وسلم فمضغها إلى زماشي ثم أخذها من فيه إلى صوتي دو سابوش فجعلها في في الصبي إلى زميدان إلى ميسي مورسو دون لابوش دو سيت انفون ثم حنكه وسماه عبد الله إلى دونيكم نو عبد الله. Le troisième droit, bien le troisième point dans ce quatrième droit de l'enfant, c'est de lui choisir un nom convenable. Ikhtiyar l'ism. Hada haqq. Et ceci est parmi les droits les plus importants de l'enfant. De lui choisir un nom convenable. Convenable. Allez, regardez les noms des musulmans aujourd'hui, vous allez être choqués. On n'a pas laissé de mauvais nom sans le donner aux enfants musulmans. Un qui s'appelle Bourkchour, l'autre qui s'appelle le Brel, l'autre il s'appelle, je ne veux pas citer de mauvais noms, pire que cela. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, en primaire, et le professeur il faisait l'appel chaque jour, et on entend. Boulkchour, 13 ans. Quel nom on choisit Boulkchour? Comment il va grandir cet enfant? Et aujourd'hui, on entend, au lieu de Zakaria, c'est Zak. Mohamed, c'est Moumou. Mais chez nous, Moumou, c'est pour faire peur aux enfants. Regardez quel nom. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait comme tradition d'éviter les mauvais noms et de changer les mauvais noms. Il a changé beaucoup de noms, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à des sahabis, sahabiyat. Des compagnons qui avaient des noms, tels que le nom de Hazan. Hazan, ça veut dire difficulté. Et le prophète le changea en Sahl, facilité. Il changea le nom de son épouse, Barra, au nom de Zaynab, sallallahu alayhi wa sallam. Il changea d'autres noms qui étaient des noms mauvais. Il a changé même les noms de certains lieux qui étaient des lieux, des noms qui étaient mauvais, non acceptés par l'islam. Comme a fait Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour Al-Hassan, Hussein, d'aller le peser et de voir combien ça vaut en argent, en matière argent, et donner le prix de ce poids d'argent comme sadaqa. Tu donnes sadaqa? Eh bien, il y a moyen de donner sadaqa. C'est recommandé par le prophète, mais c'est un droit de cet enfant pour qu'il soit béni par Allah Azza wa Jal. Et de faire l'aqiqa, d'immoler un sacrifice pour qu'il soit béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de raser sa tête, c'est un droit de cet enfant. Et de lui faire la circoncision le septième jour si on peut. Sinon, même si on peut, le septième, si on veut le reporter pour plus tard, on peut avant la puberté. Al-khitan. C'est un droit de l'enfant de lui faire la circoncision. Le cinquième droit de l'enfant, c'est le droit de l'enfant à la miséricorde, à Rahma. Et ceci est un grand principe en islam. Le prophète n'a été envoyé que Rahmatan lil alamin, que comme miséricorde pour toute l'humanité. Parmi les personnes qui ont le plus de droits à cette clémence, à cette miséricorde, ce sont tes enfants. Aoula nasi bi rahmatika, auladuk wa atfaluk wa abna'uk. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à ce sujet, man lam yarham saghirana wa ya'rif kabirana falaysa minna. Rapporté par Al-Bukhari. Dans un autre hadith, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Il n'est pas des nôtres, nous les musulmans, celui qui n'a pas de miséricorde envers ses enfants, envers les petits, envers ceux qui sont moins âgés que lui. Il n'est pas des nôtres. Ce compagnon qui rentra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser les enfants, il dit, Ya Latif, tu embrasses les enfants, Bel Israël. كتبوس الدراري الصغار وانت هذا باللحيه ديالك وتبوس الدراري الصغار. يا دي موا جي 10 انفون جو ني جامي امبراسي ان سول. الرسول يدي كيس كو تو فو كو جو تو فاس سي تو نا با دو ميزيريكورد دون طون كور اذا الله تعالى زول منك الرحمه اش غادي نعمل لك انا؟ من لا يرحم لا يرحم. Tu n'as pas de pitié dans ton cœur. Qu'est-ce que je peux pour toi? Si tu crois que le fait d'embrasser ton enfant, ça diminue de ta personnalité. Il était celui qui avait le plus de pitié, de miséricorde, de clémence envers les enfants. Comme dit un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième, bien le sixième droit, c'est le droit de jouer pendant le stade de l'enfant. C'est un droit de l'enfant de jouer. Le fait que l'enfant aime jouer, ça ne diminue en rien la valeur du père, ni l'éducation. Au contraire, ça renforce les liens entre les parents et leurs enfants. Ça rapproche les parents des enfants. Ils font aimer les parents aux enfants. Et on a l'exemple modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voyez aujourd'hui, vous rentrez dans une maison. Et tout d'un coup, dans le salon, vous découvrez le père. Masha'Allah, un père qui est âgé quand même, et qui sort sa langue et qui joue avec son enfant. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous sortez. Un père qui sort sa langue et qui rigole, il s'amuse, il joue avec ses enfants. Il court dans le salon. Beaucoup de musulmans, ils vont dire, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, celui-là, j'ai rentré un jour, je suis rentré chez un tel, il se trouve en train de rigoler, de s'amuser avec ses enfants, il sortait la langue, il jouait avec les enfants comme un petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il le faisait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur prophète, le meilleur messager, sortait sa langue pour jouer avec ses enfants, avec ses petits, avec ses neveux, le Hassan et le Hussein, radiyallahu anhuma. Yaqulu Abu Huraira, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه. الحسن quand il voyait la langue du prophète صلى الله عليه وسلم qui était rouge, il sautait sur la langue du prophète صلى الله عليه وسلم, il voulait la prendre avec ses mains, et le prophète صلى الله عليه وسلم sortait sa langue pour jouer avec الحسن رضي الله عنه. Et Anas il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول يا زوينب يا زوينب. Le prophète jouait avec Zainab, la fille de sa femme. Umm Salama, elle était épousée par Abu Salama. Quand Abu Salama est mort, c'est le prophète qui s'est marié avec Umm Salama. Elle avait Zainab comme fille. Et le prophète, de temps en temps, il allait jouer avec Zainab. Il disait « Ya Zouaynib », c'est un diminutif de Zainab. Comme on dit en arabe, un verbe « kouyes », un diminutif. Il dit « Ya Zouaynib » pour s'amuser, pour jouer avec Zainab, radiyallahu anha. Un compagnon dans Sahih al-Bukhari, Mahmoud ibn al-Rabi' radiyallahu anha, il dit « Je me rappelle, à l'âge de 5 ans, j'avais encore 5 ans, quand un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un peu d'eau dans sa bouche, il me l'a lancé sur mon visage. Je me rappelle, j'avais encore 5 ans. Comme Cheikh Ibn Hadeva. Le sixième, le septième droit de l'enfant, c'est le droit au respect. Le droit au respect. Et le respect manque beaucoup dans les maisons, dans les foyers musulmans. Notamment entre les époux. Entre le mari et la femme, il n'y a pas de respect. Illa man rahima rabbou. On se parle que des surnoms, masha'Allah. Entre l'épouse et l'époux, en général, il n'y a pas de respect. C'est une des causes qui casse le plus souvent le couple. C'est qu'il n'y a pas de respect. Le premier mois, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect, parce qu'il y a encore cette affection. Après quelques mois, ça diminue. Après, ça devient que des insultes, et des insultes, et que des insultes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le meilleur exemple concernant le respect de l'enfant. Respecter la vie de l'enfant, respecter la personnalité de l'enfant, respecter les réponses de l'enfant, respecter les questions de l'enfant, respecter sa manière d'agir, sa manière de parler. Il faut le respecter et corriger ses fautes comme ça viendra, inshallah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans une réunion avec les grands compagnons, avec l'ashiyakh, les mashayikh, il y avait des shuyukh, des personnes âgées, qui étaient à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à sa droite, un enfant. على يميني عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم طفل وعن يساره صحابة مشايخ أو أشياخ كبار في السن. Le prophète a pris un verre pour boire. Il a bu, il a voulu donner à ceux qui étaient avec lui dans cette réunion. Et comme le prophète صلى الله عليه وسلم commençait par sa droite, ça fait partie de la sunna de commencer par sa droite. À sa droite il y a un enfant et à sa gauche il y a des personnes âgées. Si nos parents étaient, ou bien nous étions la plupart à la place du prophète, on aurait carrément oublié, nié cet enfant, comme s'il n'était pas là. Fâchez ta mère, elle va te donner à boire. Et Rasulallah, regarde, le meilleur messager, sallallahu alayhi wa sallam, il prend le verre, il dit à cet enfant, regardez le respect. Est-ce que tu permets que je donne d'abord à boire à ces grandes personnes, à ces personnes âgées? Est-ce que tu permets? Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, permets-tu de donner à boire, de donner cette eau, d'abord à ces personnes qui sont à ma gauche, qui sont plus âgées que toi? Cet enfant, il lui dit, Wallahi ya Rasulallah, la uthiru bi nasibi minka ahada. Je jure par Allah azza wa jal de ne donner mon tour à personne après toi. La personne, c'est mon droit, c'est moi qui bois en premier lieu. Il a juré par Allah Azza wa Jal qu'il ne donnera son tour à personne. Et le prophète, il ne va pas dire qillat ihya, shkoun li rabbak, qui t'a éduqué? Abadan. Le prophète, comme dit le rapporteur du texte, fatallahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi yadi, il lui donna le verre pour boire, sans commentaire, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le respect des parents pour leurs enfants. Cet enfant, c'est lui qui sera un homme dans l'avenir. Si on ne le respecte pas, si on ne lui donne pas le temps de parler, de s'exprimer, de faire ce qu'il a envie de faire et de corriger quand il commet des erreurs et des fautes, eh bien, il sera éduqué dans un climat de peur et de crainte, écrasé. Eh bien, demain, quand il sera un homme, il sera humilié, il acceptera l'humiliation. Quand on lui dit « fait », il dit « oui, monsieur ». Sors, oui monsieur. Tais-toi, oui monsieur. Il accepte tout. Il ne peut pas ressentir cette fierté du musulman. Pourquoi? Parce que quand il était encore très très jeune, les parents étaient les premiers à l'humilier et à l'écraser. Ce sont les parents. Alors que le prophète nous donne le meilleur exemple du respect de l'enfant en islam. Le septième droit, c'est le droit à l'enseignement de la religion. حَقُّ تَعْلِيمِ الطِّفْلِ دِينَهُ. C'est un droit de lui enseigner la religion et les principes de la religion. À partir des premiers jours de la naissance, l'enfant, on attend, certains frères, ils attendent jusqu'à l'âge de 7 ans pour dire à l'enfant de faire la prière. Non, mais l'éducation, elle commence déjà avant. Elle commence au moment de la naissance, même avant la naissance, quand l'enfant, il est encore dans le ventre de sa mère, il entend la récitation du Coran à la maison. Il entend l'adhan à la maison. Quand il est né, il entend chaque fois, même s'il ne comprend rien du tout. Il entend la voix du Coran, la voix d'une adhan. Il entend à la maison que le rappel d'Allah Azza wa Jal. Pas de dispute, pas d'insulte, pas de musique. Quand il a encore un jour après sa naissance, l'éducation a déjà commencé. Et je cite, je rappelle toujours l'exemple de cet homme qui a dit à un savant, un penseur musulman, il lui dit, je viens pour te demander des conseils et des recommandations pour l'éducation de mon enfant. Et le penseur, il lui dit, quel âge a ton enfant? Il lui dit, 2 mois. Il lui a dit, va-t'en, c'est trop tard. C'est une manière de lui dire, de lui faire comprendre qu'il fallait d'abord, avant de se marier, il fallait demander. C'est pas trop tard, mais c'est une manière de lui faire comprendre qu'il fallait demander avant. L'enfant, remarquez, celui qui a des enfants de cet âge-là, il remarque clairement comment l'enfant, subhanallah, il fait attention à chaque chose. Quelques mois après, tu pars, il te regarde. Tu fais tomber quelque chose, il va la chercher. Il essaye de toucher, il essaye de regarder. Il est attiré par le bruit, par le son, par la parole, par le mouvement, par les couleurs, par toute chose, il est attiré. Alors si on ne lui donne pas cette éducation à ce moment-là, eh bien, comment il grandira? Quel avenir aura-t-il cet enfant après la puberté, après sa jeunesse? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un enfant qui mangeait sur la même table que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mange avec sa main gauche. Et il mange rapidement. Chose qu'on voit chez certains enfants de nos frères. Quand il vient manger avec les gens, il voit l'enfant comme s'il n'a jamais mangé que lui. Là, il ne faut pas dire non, laisse-le, c'est un enfant. Non, il faut l'éduquer, il faut lui dire que ceci, ce n'est pas la bonne manière de manger. Lui dire comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet enfant, lui dit, ya ghulam, sammillah, dis bismillah. Regarde combien de conseils qu'il lui a donné, combien de recommandations qu'il lui a donné. Sammillah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Dis bismillah avant de manger. Mange avec ta main droite et mange devant toi. Mange devant toi. Ne mets pas ta main partout dans le plat. Mets ta main devant toi, mange devant toi, dis bismillah et mange avec ta main droite. Ce sont des recommandations, c'est une éducation de nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux tuteurs et aux parents d'apprendre et d'enseigner à leurs enfants la prière à partir de l'âge de 7 ans. Et sur 3 ans, plus de 5000 prières qu'il aura fait. L'enfant. Plus de 5400 aidés, prières. Un exercice de 3 ans, ça fait 5400 et quelques prières, 5 fois par jour. C'est un exercice, vu l'importance de la prière. Si on s'exerce pas à apprendre à prier à l'âge de 7 ans, jusqu'à 10 ans, eh bien, après 10 ans, ça devient difficile. Après la puberté, ça devient encore plus difficile. Et des fois, il y a des frères qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils n'arrivent pas à prier et à prier à l'heure. Des frères qui ont 18 ans, 20 ans, ils ne prient pas à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande négligence. C'est pas une excuse, mais il y avait une grande négligence durant leur enfance de la part des parents. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit « Man qara al-Qur'an qabla an yahtalim, fahuwa mimman utiya l'hukma sabiyya » Celui qui a appris le Coran avant la puberté, regarde comment il insiste sur le stade de l'enfance. Il dit celui qui a appris le Coran avant la puberté fait partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse. Il fait allusion au verset cité dans le Coran al-Karim, dans Surat Maryam concernant le prophète Yahya alayhi salam. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Allah il dit que le prophète Yahya, Allah lui a donné la sagesse déjà à l'état de son enfance quand il était encore enfant. Alors Ibn Abbas il dit celui qui a appris le Coran pendant son enfance fait partie de ceux à qui Allah Azza wa Jalla a donné la sagesse. Et un autre exemple, c'est celui de Hassan al-Basri radiyallahu anhu rahimahullah. Il dit قَدِّمُوا إِلَيَّ أَحْدَاثَكُمْ. Amenez-moi vos enfants. Il disait ça aux parents. Le grand savant Hassan al-Basri, il dit aux parents, amenez-moi vos enfants. فَإِنَّهُمْ أَصْرَهُ قُلُوبًا وَأَحْفَظُ لِمَا سَمِعُوا. car leurs cœurs sont encore vides, des pages blanches. Et ils mémorisent et ils retiennent beaucoup plus vite que les personnes âgées. Amenez-les devant moi pour leur enseigner, leur donner l'enseignement de l'islam. Et on a aussi un très très bon exemple que je conseille aux frères et aux sœurs de lire dans Sourate Luqman. C'est l'histoire de Luqman. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ L'enseignement, il lui apprend l'aqida, il lui apprend l'iman, les principes de foi. يَا بُنَيْ Écoute mon enfant, regarde quelle manière de s'adresser à l'enfant. Il ne dit pas Abu Ras. Il dit يَا بُنَيْ Écoute mon enfant, يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Comme s'il s'adresse à un savant. لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ N'associe personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. Inna shirka la zulmun azim. Car le fait d'associer quoi que ce soit à Allah azza wa jal est une injustice énorme. Le prophète sallam dit à Ibn Abbas à un enfant, Ya ghulam, inni mu'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadk. Ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ghulam étant encore un enfant qui était derrière le prophète sur la même monture, derrière le prophète sallam. Et le prophète s'adresse à lui en disant, Ya Ghulam, écoute-moi, je vais t'enseigner quelques paroles, quelques sagesses, retiens-les. Regardez quelle manière d'enseigner, quelle manière de s'adresser à l'enfant comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i à l'âge de 7 ans, il connaissait le Coran entier. Il a appris par cœur le Muwatta de l'imam Malik à l'âge de 10 ans, rahimahullah. Le 8e droit de l'enfant, c'est le droit à la correction quand il commet des fautes. C'est un droit de le corriger. Le fait de corriger l'enfant quand il fait des erreurs, quand il fait des bêtises plutôt, c'est un droit de l'enfant. Car à cet âge-là, il ne sait pas distinguer le bien du mal dans beaucoup de fois, beaucoup de cas. L'enfant n'a pas encore bien compris, n'a pas bien encore assimilé ce principe de faire la distinction entre le bien et le mal. Des fois, il croit que ce qu'il fait est bien, mais en vérité, il est mal, il est mauvais. Certains parents musulmans, ils te disent, laisse-le, c'est encore un enfant. Laisse, c'est la nature qui va lui apprendre. C'est la nature qui va lui apprendre. Laisse-le regarder les mauvaises choses à la TV. Un jour, il comprendra. Laisse-le écouter la musique. Un jour, il comprendra. Laisse-le voler. Un jour, il comprendra. L'enfant qui vient voler devant le père et la mère, et le père qui est content, il dit, mon fils, il est mtawur, masha'Allah. Il est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a apporté une radio cassette. L'enfant, il est très intelligent. L'enfant, quand il entend ça, une approbation de la part du père, et pour lui le père c'est un modèle à suivre malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui apporter le lendemain une voiture, pas une radio cassette. Corriger l'enfant est un droit pour l'enfant, est un droit de l'enfant, est un devoir des parents, le corriger quand il fait des bêtises. Mais là, il faut garder le juste milieu. حق التأديب التأديب تأديب الطفل هو حق من حقوق الطفل ولكن ينبغي أن نبقى في الوسط le juste milieu. Ne pas exagérer et ne pas négliger. Ne pas, chaque fois que l'enfant fait une erreur, tu viens le critiquer, lui faire des reproches. Ou bien, certains parents, chaque fois que l'enfant commet une bêtise, fait une bêtise, eh bien c'est le hrawa. Directement. Et certains frères qui ont la patience, masha'Allah, ils font rien. Ils voient leurs enfants faire des bêtises. Pendant 2-3 jours, il lui dit, Aouldi, Allah yardali, ne fais pas ça. Il laisse passer. Une fois, deux fois, trois fois, il dit, Masha'Allah, le père, il a beaucoup de patience. Quelques temps après, un jour, il est en colère, le père, Ijma'lu l'hisab, tout. Le hrawa, il le massacre. Il a fait, pourquoi tu l'as massacré? Tu dis, ça fait une semaine ou un ensemble. Et c'est pas la manière. Le prophète sallam nous a donné toute une série de règles à suivre quand on veut corriger l'enfant. Pas n'importe comment. Le 9e et l'avant-dernier droit de l'enfant que je citerai, c'est le droit à l'allaitement. Le droit à l'allaitement, حق الرضاعة. حق الرضاعة le droit à l'allaitement. Allah Azza wa Jal a consacré tout un verset dans le Coran Karim dans Sourate Al-Baqarah. Il dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Hein? حق الرضاعة. Le 10e droit de l'enfant, c'est un nafaqa, dépenser de l'argent pour ses enfants. C'est un droit de l'enfant. Comment un père ose-t-il, subhanallah, acheter une voiture à 900 000 francs et son enfant a une chemise qui n'a pas changé depuis 9 mois? Son enfant vit dans de l'humidité, pas de chauffage. Il lui donne 20 francs sur 3-4 mois. Et lui, il a une voiture de 300, 400, 500, 900 000. Il dit, même toi tu m'appartiens, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a oublié que l'enfant a des droits sur son père. C'est un droit de dépenser de l'argent pour sa famille. Parmi les pires des péchés, comme a dit le prophète sallam, c'est de négliger sa famille financièrement. D'aller éparpiller de l'argent à gauche et à droite et de laisser sa famille dans le besoin, de laisser ses enfants dans le besoin, ils vont aller voler, ils vont aller agresser. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم دينار أنفقته في سبيل الله un dinar, les dinars c'était des pièces en or qui pesaient à peu près 4 grammes à l'époque du prophète sallam. Un dinar que tu donnes في سبيل الله comme sadaqa. دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة et un dinar que tu as donné pour affranchir un esclave à l'époque. ودينار تصدقت به على مسكين un dinar que tu as donné comme sadaqa pour un miskin ودينار أنفقته على أهلك un dinar que tu as donné que tu as dépensé pour ta famille pour tes enfants. Le meilleur de ces 4 cas de dépense أعظمها الذي أنفقته على أهلك le meilleur c'est l'argent que tu as dépensé pour tes enfants et ta famille. Il dit dans un autre texte صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. C'est un péché de négliger les enfants qui sont à ta charge et ta femme qui est à ta charge. Ou bien la femme qui a de l'argent et qui a un mari qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus et qui elle a de l'argent. Elle dit, moi je ne suis pas obligé de subvenir aux besoins de la famille. C'est une grave erreur. Elle sera responsable, Yom Kiyam, elle sera interrogée pour ses enfants, elle aussi. L'épouse de Abdullah ibn Mas'ud qui vient chez le prophète, sallam, il dit, Ya Rasulallah, j'ai de l'argent pour sadaqa. J'ai de l'argent de sadaqa. Je veux le donner à mon époux, à mon mari ibn Mas'ud, car il n'en a pas, il est pauvre. Est-ce que islamiquement, m'est-il permis de lui donner cette sadaqa? Le prophète sallam lui dit, si tu donnes cette sadaqa, cet argent à ton mari, eh bien tu seras doublement récompensé. La récompense pour la sadaqa et la récompense pour les liens qu'il y a entre vous. Aujourd'hui, c'est la plupart des cas de divorce à cause de l'argent entre le mari et la femme. Et je m'arrête sur ce point concernant, à propos des droits de l'enfant. Il y en a d'autres, mais inshallah, quand on arrivera aux questions-réponses, on peut les traiter, inshallah. Subhanahu wa ta'ala. Wa jazakum Allahu khayran. Subhanaka Allahu wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Là ne sont que quelques droits, bref, résumés. Si on veut parler des domaines de l'éducation, les domaines auxquels touche l'éducation, ils sont énormes et vastes. Et chaque point, on peut faire toute une conférence pour chaque point. que ce soit l'éducation, au niveau du culte, apprendre à l'enfant le culte et l'ibada, lui apprendre le dogme et l'aqida, lui apprendre le comportement. L'éducation psychologique, at-tarbiya an-nafsiya, l'éducation physique, corporelle, l'éducation au niveau sexuel, at-tarbiya al-jinsiya, des enfants musulmans, l'éducation au niveau de connaissances et savoirs, éducation sociale, etc., etc. Chaque sujet peut être traité dans une conférence à part. Mais dans les questions-réponses, inchallah, on va parler de certains points importants et répondre aux questions des frères et sœurs. Wa jazakum Allahu barakallahu.
Le point que je voudrais ajouter, ça concerne un problème qui est dans la plupart des foyers, des couples qui ont, surtout les jeunes couples qui ont des enfants très très jeunes, c'est les questions posées par ces enfants, les questions qui se répètent, la quantité des questions, la nature de ces questions, etc. C'est un problème qui est posé chez beaucoup de frères et sœurs. La réaction des parents est souvent négative vis-à-vis de ces questions de leurs enfants, notamment quand les enfants commencent à parler, commencent à comprendre et à chercher à comprendre, à chercher des réponses à leurs questions. Et souvent, comme j'ai dit, la réaction des parents est négative. Il y a soit un refus de répondre aux questions des enfants, il y a une négligence, il y a une incompréhension vis-à-vis de cet enfant et de la nature de cet enfant, de ses questions. La première question que je veux poser, c'est la suivante, et la suivante: pourquoi les enfants posent-ils autant de questions? Les raisons sont très très nombreuses. La première, c'est l'envie de découvrir l'entourage dans lequel l'enfant vit. C'est une chose qui est tout à fait normale. L'enfant qui était hier une page blanche dans un autre monde, il vient de sortir dans un monde qui est le nôtre ici, il découvre des choses nouvelles, il voit des choses nouvelles, il entend des paroles nouvelles, tout est nouveau pour lui. Il a envie de découvrir ce qu'il y a dans son entourage, dans sa chambre, dans la cuisine, dans le salon, dans la poche de son père et de sa mère. Il prend les bics, il va là où on lui a interdit, c'est là qu'il va, c'est là qu'il attaque. Pourquoi? Il a envie, on dit que c'est quelqu'un, subhanallah, quand on voit chez nous, on voit quelqu'un qui bouge beaucoup, un enfant qui bouge beaucoup, on dit Ada, mashallah, safi, al-wild ma'aktib radikoum. Je ne sais pas comment il va devenir quand il sera grand. Alors que le contraire, on doit se poser la question quand on voit quelqu'un de très calme, à cet âge-là, trop calme, là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème. C'est pas normal qu'un enfant reste trop calme. C'est pas normal. En général. Alors si on voit un enfant qui est très, qui bouge beaucoup, qui pose trop de questions, etc., c'est un point qui est positif. Mais il faut savoir comment réagir vis-à-vis de cet enfant. Donc la première raison pour laquelle il pose trop de questions, c'est l'envie de découvrir l'entourage dans lequel il vit. La deuxième raison, c'est le besoin de comprendre ce qui se passe. Il découvre des choses, mais il ne sait pas pourquoi elles sont là. Il entend des paroles, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'elles veulent dire. Alors il veut comprendre. Il voit le père qui sourit, mais il ne comprend pas pourquoi. Il veut comprendre. Il voit quelqu'un qui pleure, il veut comprendre pourquoi. Il voit une chose qui est cassée, il veut comprendre. Chaque chose qui bouge, qui change dans la maison, il veut comprendre. Et c'est aux parents de lui donner la bonne réponse. La troisième raison, c'est l'angoisse de l'enfant à l'égard de certaines choses dans son entourage, ou bien de certains objets. Il ressent des fois de l'angoisse, il a peur. Il veut savoir, il pose des questions. Pourquoi il y a cet objet qui est là-bas? Et des fois, quand on achète pour la première fois une voiture pour un enfant, des fois il a peur, surtout si la voiture est téléguidée. Elle a peur. Mais dès qu'il découvre cette voiture, eh bien, la première chose qu'il fait, il la casse. La première fois, il n'a pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire cette voiture. Il a peur de cette voiture, de cette chose qui est nouvelle pour lui. Alors il pose des questions. La quatrième raison pour laquelle on pose aussi trop de questions de la part de l'enfant, c'est l'envie, cette envie de s'affirmer, de dire « je suis là, faites attention à moi ». Parce que des fois, et là c'est un point qui est très très important, dans les familles où il y a des enfants qui ont à peu près le même âge, il y a de la jalousie qui se crée entre les enfants. Il y a 2 ans, il était tout seul dans ce foyer, dans cette maison, il était tout seul. Entre ses parents, il était gâté, il avait tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il voit quelqu'un de nouveau qui arrive, lui prendre sa place. Et on voit d'ailleurs certains enfants, les premiers jours, ils accueillent bien le nouveau-né. Peu après, les parents qui ne font pas attention, ils sont tous autour du nouveau-né, ils oublient le premier. Alors le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de la moindre occasion pour aller mettre son doigt dans les yeux du nouveau-né. Essayer de lui mettre le doigt dans l'œil, de le griffer, etc. Pourquoi? Il voit qu'il est oublié, il a ce sentiment qu'il est oublié par les parents. Et cette jalousie peut même causer la mort pour un des enfants. Et on a un exemple dans le Coran al-Karim qu'il ne faut pas oublier. C'est toute l'histoire de Youssef alayhi salam, qu'il ne faut pas oublier. 11 enfants, 11 fils d'un prophète, Yaqub alayhi salam, qui veulent tuer leur frère, pourquoi? Parce qu'il était plus aimé par le père. Ils ont voulu le tuer, ils l'ont mis dans un puits. Il a été pris par une caravane, vendu comme esclave en Égypte. À cause de quoi? Cette jalousie qui se crée entre les enfants. Et pour remédier à ce problème, des fois, il faut donner l'importance au premier, à cet enfant, il y a ce sentiment, aussi lui donner des responsabilités. Au lieu d'aller chez le nouveau-né et lui donner, par exemple, quelque chose, des fois, il est préférable de le donner à cet enfant qui était déjà là. De lui donner, de lui dire, tiens, prends ça et donne-le à ton frère. Va prendre la tute de ton frère, etc. Il ressent comme s'il était un père. Il a une responsabilité, il a un rôle à jouer dans la famille. Et ne pas le nier, le laisser là comme si c'était un objet. Une des autres raisons pour lesquelles l'enfant pose trop de questions, c'est l'envie de ressembler aux grands. يحاول أن يثبت أو أن يقارن نفسه بالكبار. Il voit son père, par exemple, comme a dit le frère, Hicham, il voit le père qui hausse la voix à la maison, même l'enfant, il veut hausser la voix. Il veut ressembler aux grands. Alors il commence à poser trop de questions. Il voit le père qui pose des questions au frère qui vient de l'école. Pourquoi tu es arrivé en retard? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs, etc.? Eh bien, l'enfant, des fois, il veut aussi poser des questions. Tu vois, un enfant de 2 ans, il dit à son grand frère, hey, où tu étais? Inch'Allah. Il y a aussi une chose qui est tout à fait normale. C'est que l'enfant, plus il avance dans l'âge, plus il va parler, plus il va poser de questions. C'est tout à fait normal. Il y a un développement, une évolution de son langage. Et il est tout à fait normal. Il a appris beaucoup plus de mots. Il aura plus besoin de comprendre certaines choses. Alors il pose plus de questions, qui est une chose tout à fait normale. Le deuxième point, c'est quelle est l'importance de poser les questions de la part des enfants? Est-ce que le fait de poser des questions a une importance? Eh bien, le premier point le positif, ou bien la première conséquence positive de poser des questions de la part de l'enfant, c'est de réaliser cet équilibre psychologique chez l'enfant. Si il a une chose qu'il n'a pas compris, ou bien il a de l'angoisse, il pose des questions, on lui donne la bonne réponse, il comprend, eh bien, on le remet dans cet équilibre psychologique. Il avait peur de quelque chose. Il croyait que une telle chose est mauvaise pour lui. Et que le fait qu'il aille dans la cuisine tout seul, il y a quelqu'un qui l'attend derrière la porte. Eh bien, le fait de lui apprendre, de lui donner la réponse convenable, casse ces illusions qu'il avait et répond à ces questions. Et l'enfant revient à l'état normal et à l'équilibre normal, à l'équilibre psychologique, à son équilibre psychologique. Et aussi, par ces questions qui sont nombreuses et qui sont des fois répétées, l'enfant arrive à développer les opérations de réflexion. Si un enfant ne parle pas trop, il ne pose pas de questions, on ne lui répond pas à ses questions, eh bien, il sera beaucoup moins, son cerveau sera beaucoup moins développé que quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui reçoit des réponses, des bonnes réponses. Si on met quelqu'un dans une forêt où il n'entend pas de mots, on ne lui parle pas de langage, il ne saura pas parler. Mais quelqu'un qui parle, il arrive à trouver des réponses, il arrive à faire des opérations mentales pour trouver les réponses quand on lui pose des questions, eh bien, il va développer ses capacités mentales et intellectuelles beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a pas l'occasion de poser ses questions en général. Et ces questions aident l'enfant à connaître les valeurs qui sont dans son entourage, le comportement, l'akhlaq, l'qiyam, à connaître les valeurs. Il n'a pas encore compris la valeur de c'est quoi la véracité, c'est quoi le mensonge, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi le méchant et le gentil. Ce sont des choses qu'il ne connaît pas. Alors il pose des questions. Par ces questions, il comprend à distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, le mensonge de la vérité, etc. Donc ça l'aide à connaître les valeurs dans son entourage. La question qui se pose maintenant, pourquoi beaucoup de parents négligent et ne répondent pas aux questions de leurs enfants et négligent les enfants quand ils posent des questions? La première cause, certains parents s'intéressent plus aux réponses qu'aux questions. Lui pose des questions à son fils. Qu'est-ce que tu as fait, où tu as été, pourquoi tu as mangé, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Mais quand l'enfant pose des questions, eh bien, il le nie. La deuxième cause qui met les parents dans la négligence des questions des enfants, c'est le fait que certaines questions sont étranges. Les enfants posent des fois des questions étranges. Tu dis, où est-ce qu'il est Allah ? Hein, tu lui réponds, tu lui dis, il est au-dessus du ciel. Il dit, mais comment il est? Pourquoi il ne vient pas dormir avec nous? Des questions étranges. Mais quand le père il n'a pas de réponse, la meilleure chose pour répondre à qu'est-ce qu'il fait, quand il croit que c'est la meilleure chose pour ne pas, il ne répond pas. Au lieu de dire que de donner une réponse qui est compréhensible par l'enfant, essayer de lui faire comprendre par les paroles qu'il comprend, par les exemples qu'il peut comprendre, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il le nie. Il peut même dire Allahu alam, il dit l'adri, s'il ne connaît pas la réponse, il dit après je vais te répondre, demain inchallah je vais te répondre à cette question. Il va demander à un frère, à quelqu'un qu'il connaît, il lui dit j'ai une question de la part de mon fils. Il prend la réponse, il va la transmettre à son fils. Mais lui dire, va jouer. La troisième cause, c'est la difficulté des questions des enfants. Des fois, ils posent des questions difficiles. S'il dit au père, le père, il n'a pas de connaissances. Il lui dit, pourquoi le soleil se lève à l'ouest? À l'est. Et le père, il ne sait pas. Pourquoi la pluie, elle tombe du ciel? Pourquoi la terre a bougé? La quatrième cause, c'est les questions qui sont un peu choquantes de la part de l'enfant. Est-ce qu'il a mouhrija? Et c'est des questions qu'il pose. Il dit, l'enfant, il vient chez son père ou chez sa mère, il dit, comment je suis né? Il pose ces questions. Comment je suis né? Ou bien, il dit, pourquoi tu es dans le même lit que ma mère? Et ça, c'est arrivé. Et ouais, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a des réponses à tout, mais il faut connaître il faut comprendre et connaître les méthodes coraniques et prophétiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il parle des choses les plus intimes dans la vie conjugale. Dans le Coran, on lit les versets devant les parents. On n'a pas honte de les lire. Pourquoi? On lit dans le Coran des versets qui parlent des choses les plus intimes. Dans les textes du prophète Hassan, il y a les choses les plus intimes que vous n'osez pas dire entre vous. On les lit dans le Coran, dans les textes devant tout le monde, dans un langage de pudeur, dans un climat de pudeur et de l'imam. Et aussi des fois, l'enfant est souvent, à un certain âge, il pose trop de questions. Et le père, il est dépassé. Il pose, ou bien la mère aussi, elle est dépassée. Il pose trop de questions. Question après question. Pourquoi tu as une barbe? Pourquoi ma mère n'a pas de barbe? Pourquoi tu vas à la mosquée? Avant que tu termines ta réponse, il aura déjà donné une troisième question. Pourquoi hier tu m'as dit ceci? Pourquoi demain on ne va pas au parc? Mais pourquoi tu portes la baya? Trop de questions. Alors le père, il en a marre, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, s'il a sabr bien sûr, il essaye d'utiliser un peu de son intelligence pour fuir les questions de son fils. Que dois-tu faire? Il vient te poser des questions pour l'écouter, l'encourager, lui dire, je vous le dis, viens ici, c'est quoi ta question? Laisse-le poser sa question. S'il est bien posé, tu réponds à sa question. Si elle est mal posée, tu essaies de le corriger. Tu n'as pas de réponse, tu lui donnes un autre jour pour lui répondre à ses questions, etc. Et aussi, il faut diversifier dans l'entourage de l'enfant. C'est une chose qui est très positive d'avoir beaucoup de choses qui poussent l'enfant à poser des questions. Avoir des livres à la maison, avoir des cassettes, avoir des objets, avoir des choses que l'enfant aime. Et essayer d'encourager l'enfant à découvrir ce qu'il y a à la maison pour qu'il pose des questions. À diversifier ce qui se trouve dans la maison. Que ce soit les objets, que ce soit les gestes qu'on fait. Une fois tu pries devant lui, une fois tu lis le Coran devant lui, une fois tu t'assises discuter avec ton épouse et avec tes enfants. Cette diversification va pousser cet enfant à poser encore plus de questions. Et une chose très importante à faire face à ces questions, c'est de lui faire sentir que ces questions t'intéressent. Même s'il pose des questions très très bêtes, à tes yeux, il faut lui faire sentir que tu es intéressé par ces questions. Ne lui dis pas comme disent certains parents, et on a entendu ça plusieurs fois. Il dit, il a deux enfants, devant tout le monde. Il les appelle. Il prend un de ses enfants, il le met sur ses genoux. Il dit, hada waldi, hada, masha'Allah, il est mtawwar, il est m'aqali. Amma hada kadak bghalou safi. Il est bête, devant tout le monde. Toujours dans l'échec. Il ne sait rien faire. Comment il va grandir cet enfant? Un, il va haïr son frère. Il va haïr son père. Il va haïr même les musulmans. Il va essayer de se venger à l'extérieur de la maison, à cause de ça. Le cinquième point, c'est de répondre, de donner à l'enfant une réponse qui lui convient. Il te pose une question à un enfant de 3 ans, 4 ans, il te pose une question qui commence à philosopher. À lui parler, je ne sais pas de qui, un tel a dit qu'il y a Ikhtilaf, c'est un enfant de 3 ans, mon frère. Il a 3 ans, il y a l'ikhtilaf, lui il ne connaît pas l'ikhtilaf. Ou un rajih, il n'y a pas de rajih, c'est un enfant, mon frère. Quels sont, le dernier point, quels sont les facteurs qui interviennent dans la quantité et la qualité des questions de l'enfant? Quels sont les facteurs? Le premier, c'est l'âge. L'âge de l'enfant joue pour beaucoup dans la nature des questions que l'enfant pose et dans la quantité des questions. Plus l'enfant a un certain âge, plus il grandit, plus il pose des questions. Et les questions sont diversifiées. Aussi, la capacité mentale de l'enfant, elle joue pour beaucoup, pour la nature et la quantité des questions. Moustawa al-aql al-tifl yu'assir fi adad al-as'ila wa tabi'at al-as'ila naw'iyat al-as'ila al-umr. L'envie de participer avec les autres. Plus l'enfant a envie de participer, plus il va poser plus, des questions. Il y a des enfants qui ne sont pas intéressés, ils ne sont pas attirés par la participation avec les autres. Si les autres parlent, il est isolé dans un coin. Si il joue, il est isolé dans un coin. Mais il y a beaucoup d'enfants qui veulent participer. Il te voit écrire, il veut écrire. Il te voit marcher, il veut marcher. Il te voit dormir, il vient te déranger. Il veut être partout. Participer dans toutes les, dans tous les jeux, dans toutes les actions que tu fais, dans tout ce que tu fais, il veut être présent. Une chose qui est tout à fait normale, il posera plus de questions que quelqu'un qui n'a pas participé avec ses parents, ses frères et sœurs, etc. Et des fois, c'est à cause de certains problèmes psychologiques. Quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, en général, il ne pose pas trop de questions. Il est renfermé, calme, et chez nous, c'est le meilleur. Hein? Cheikh, masha'Allah. Il te dit, Allah, si tu le laisses, pendant 24 heures, il ne bouge pas. C'est pas un être vivant s'il ne bouge pas. C'est pas toujours le cas qu'il est malade. Non, mais des fois, il faut voir pourquoi c'est pas normal. Le fait qu'il pose des questions, qu'il bouge, qu'il cache certaines choses, il est actif. Ça va l'aider à développer ses mouvements, son langage, ses capacités mentales, etc. Mais quelqu'un qui est dans un coin calme tout le temps, calme, il ne sait rien, il ne bouge pas, il ne pose pas de questions, à l'âge de 14 ans, vous allez voir qu'est-ce qu'il va devenir. On dit en Darija, Khadm al-Wed sec. Hein? On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Tout est calme à la surface. Et un jour, ça va déborder. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barakallahu.